Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Bonjour François-Régis.
Bonjour Fanny.
Je suis très heureuse de te recevoir dans ce format personnalité de Sur le grill décotable. Nos auditrices et auditeurs te connaissent bien, j'en suis sûre, mais je vais quand même rappeler ton parcours brièvement. Tu es journaliste et critique gastronomique. Tu es passionné par les mots, comme en atteste ton parcours d'abord en Hippocagne, puis à Sciences Po et en études de lettres. Tu es aussi passionné par les mets. Tu produis et animes l'émission de radio On va déguster sur France Inter, ainsi que divers podcasts et chroniques liés à l'alimentation. On te voit aussi à la télé, dans Top Chef sur M6, mais aussi dans Très Très Bon sur Paris Première. Tu es l'auteur d'encyclopédies de cuisine passionnantes et à succès, les fameux On va déguster, la France, l'Italie ou encore Paris. Tu as même été commissaire d'exposition récemment, lors de l'exposition Paris Capitale de la Gastronomie à la Conciergerie de Paris en 2023, avec Loïc Bienassis et Stéphane Saulier. La liste est longue de tout ce que tu fais, mais c'est notamment l'objet de ce podcast de le découvrir. Avant de te laisser te présenter de façon plus traditionnelle, je voudrais que les auditrices et auditeurs apprennent à te connaître via ton portrait de cuisine. Je te demande simplement de répondre à quelques questions de manière spontanée. Es-tu prêt ?
Je suis carrément prêt.
Si tu étais un plat ?
Si j'étais un plat... peut-être que je serais en cette saison où il fait un peu froid dehors, la soupe corse de ma grand-mère Mamita de Bastia, la zubagorsa.
C'est quoi ?
C'est en fait une espèce de... Dans la grande tradition méditerranéenne des soupes repas et des soupes paysannes, c'est un peu une variante corse du minestrone ou de la soupe au pistou. Donc c'est à la fois des légumes frais du potager, alors qui évoluent évidemment au fil des saisons. Là, en l'occurrence, ce serait du chou, quelques légumes feuilles de saison. Et puis c'est également des légumes secs, c'est ça l'originalité du minestrone, et en l'occurrence des haricots secs. Un petit morceau de lard, pour juste la petite touche de protéines animales et pour apporter de la profondeur à cette soupe. Et puis c'est également quelques pâtes qui sont comme ça cassées un peu à l'arrache. De la pomme de terre qui a vraiment vraiment mijoté à gros bouillon, et ma grand-mère disait que la soupe était prête quand on voyait plus les angles de la pomme de terre qu'elle avait coupée. Qu'il y avait eu une espèce d'érosion en fait dans le gros bouillon de la casserole et que la pomme de terre commençait à être polie comme un galet. Et ben à partir de ce moment-là, on obtenait cette soupe corse divine dont je me suis régalé beaucoup quand j'étais petit. Et puis ensuite, en plus, c'est un clin d'œil à une cuisine que j'aime particulièrement, évidemment du côté de la Méditerranée, mais aussi cette cuisine paysanne, cette cuisine de peu qui peut procurer de grandes émotions avec pas grand-chose.
Ça donne envie. Si tu étais un ingrédient ?
Si j'étais un ingrédient... Écoute, peut-être que là, ce serait... Alors, je sais pas si c'est aussi de circonstance et de saison, mais peut-être que je serais le gingembre. À commencer par un gingembre français, parce que j'ai le plaisir de découvrir que ce rhizome s'enracine en France. Alors, peut-être lié évidemment à l'évolution de notre climat. Donc, il y a un certain opportunisme agricole à planter du gingembre désormais. Mais je trouve que c'est un ingrédient magnifique qui est à la fois doux, suave et en même temps très claquant, très corsé avec sa dimension poivrée et piquante. J'aime le gingembre parce que j'ai l'impression qu'il fait du bien par où il passe. Et puis parce que je trouve que ça rehausse. Je faisais dimanche soir à mes filles qui aiment beaucoup ce plat-là, un mafé avec la pâte d'arachide, etc. Ce plat mijoté à base de volaille que l'on trouve beaucoup en Afrique de l'Ouest et dont on peut faire d'ailleurs une version à base de légumes, strictement végétarienne. Et le gingembre, il est là pour apporter ce petit relief qui va bien.
Donc tu as toujours le temps de cuisiner.
Ouais, je le prends en tout cas, surtout le week-end, il est vrai. Mais en tout cas, je mets un point d'honneur à continuer à avoir un peu un rôle nourricier, à tenter des choses. Alors d'abord par plaisir strictement égoïste, et puis aussi parce que désormais dans ma famille, ma femme et mes filles, on est amateurs de bonne chère. Et puis j'ai des filles maintenant qui sont redoutables aussi en termes de décryptage. Ma fille aînée Gabrielle, elle a vraiment les papiers en place, quoi. Alors en même temps, elle a été à bonne école, elle a fait des restaurants avec moi, et puis je l'ai toujours sensibilisée à ce que l'on mange, que l'on achète au marché, etc. Mais elle a un palais assez impeccable, assez redoutable, et du coup ça fait monter à moi la pression en quelque sorte, ça fait monter mon niveau d'exigence. Désormais j'ai la pression de mes enfants pour cuisiner, quoi.
Si tu étais un ustensile de cuisine?
Ah, bon, la mandoline. J'aime ce geste qui consiste à raser de très près des légumes, voir quand on a un peu de budget ou un peu l'occasion de se faire plaisir, une truffe. Je trouve qu'il y a une... J'aime le beau geste en cuisine, et j'aime cette façon de raser de près, quoi. Je peux pas dire autrement. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses avec une mandoline qu'on fait pas forcément avec un couteau. On peut atteindre des épaisseurs de légumes très très fines. Je l'ai fait avec un radis noir assez récemment, ou un radis green meat. Je trouve que c'est très satisfaisant, en fait, ou un chourave, qui est un de mes légumes préférés parce que je l'adore cru. Ça a un goût entre le radis et le brocoli. Je le trouve tout à fait étonnant, ce chou. Et je trouve que la mandoline, en fait, rend justice à la beauté de ces légumes. C'est pas un acte agressif de découper un légume avec une mandoline, paradoxalement. C'est un acte caressant, c'est un acte fluide.
Bon conseil sur le chourave, parce que je trouve qu'on sait jamais quoi faire de ce légume.
Exactement. Il a une sale tête de Spoutnik. Et en fait, c'est vraiment un légume absolument extraordinaire, qui a un beau jus, qui a une belle jutosité, qui est croquant, et qui a ce goût très subtil, pas du chou, qui parfois peut être un peu repoussant. Mais il a tout au bon endroit, quoi, en termes de texture et de goût. Et je trouve que c'est un légume épatant.
Si tu étais une boisson?
Écoute, je suis un peu en dry January.
Ah, toi aussi.
Je me passionne de plus en plus pour le café, et je regarde un peu de plus en plus ce qui se passe du côté des torréfacteurs, des baristas, des coffee shops que je visite à droite à gauche à Paris. On a désormais une offre pléthorique et ça fait plaisir à voir. Après, je t'avoue que j'ai une passion aussi et une approche sympa du kombucha. Je goûte par exemple beaucoup les kombuchas d'Archipel. C'est pas très original parce qu'ils sont sur la scène gastronomique en ce moment, tout le monde en parle, mais ils font des choses à base de feuilles de figuier, de feuilles de cassissier, et là plus récemment ils ont fait une version extraordinaire à base de feuilles de clémentinier qui donne des résultats vraiment prodigieux, avec une très belle pétillance, une longueur en bouche, des arômes complexes. Enfin, vraiment, je suis fan de kombucha, et moi-même j'en fais à la maison, en fait, avec des kombuchas que j'ai je garde un fond de bouteille, en fait, et je continue à la remplir et à faire une espèce de cuisine liquide en y ajoutant justement du gingembre, des figues sèches pour avoir du sucre, etc. Je nourris en quelque sorte mon kombucha.
Et tu as trouvé une mère de kombucha, ou tu l'as récupéré?
Mais non, en fait c'est un kombucha du commerce dont j'ai gardé la moitié dans la bouteille, et je continue en fait à le nourrir de sucre, de condiments, de liquide, de jus de pomme, etc. Et j'obtiens en fait une espèce de kombucha évolutif qui a des goûts différents d'une semaine à l'autre. Et ça me plaît, quoi. C'est une espèce de mini labo qu'il y a dans la porte de mon frigo.
Génial. Si tu étais un aliment que tu n'aimes pas, que tu ne manges pas?
Ah là là, alors là, Fanny, je vais avoir du mal à te répondre, parce que honnêtement, alors c'est peut-être...
Il n'y a rien que tu n'aimes pas.
Ah, il y a des choses que j'aime peut-être, auxquelles je suis peut-être un petit peu moins sensible. Mais la réalité, c'est que j'aime tout. J'en fais un point d'honneur à tout aimer. Le spectre gustatif me passionne dans toutes ses nuances, dans toute sa diversité. J'ai été un peu éduqué comme ça aussi. J'ai été éduqué par une maman qui a toujours eu ce rôle nourricier. En plus, je viens d'une famille nombreuse, etc. Ma mère était une excellente cuisinière. J'ai toujours dit qu'elle cuisinait comme elle respirait, c'est-à-dire qu'elle faisait la cuisine spontanément. Tout était toujours délicieux, tout était toujours très juste. Chaque légume était bien choisi. J'ai jamais mangé trop de viande en plus. On était vraiment dans une éducation où il fallait manger beaucoup de végétal, goûter le plus de choses possibles différentes. Elle me disait à chaque fois que j'aimais pas quelque chose, elle me disait, écoute, t'as le droit de laisser, mais je te demande d'abord de goûter. Et en général, je goûtais. Et assez peu, je laissais, finalement, parce que je me rendais compte qu'en goûtant, j'explorais des spectres gustatifs qui, certes, pouvaient me pincer un peu le palais, quoi, mais je me suis un peu habitué. Il y a un truc que j'aimais pas du tout, que j'aimais pas trop, c'était les endives. C'était pas très original, mais l'amertume me dérangeait quand j'étais petit. Et maintenant, les endives, je les fais en salade, je les fais braiser. C'est peut-être bien un de mes légumes préférés.
Donc, elles ont perdu de leur amertume, moi, je trouve.
Ouais, je suis bien d'accord. Elles sont même parties carrément avec l'intensification de notre agriculture vers le sucre, en fait, et la suavité, la facilité. C'est ça qui me déplaît dans les endives que l'on trouve aujourd'hui. Mais quand t'as l'occasion de trouver encore dans des AMAP ou certains commerces de bouche de vraies belles endives de pleine terre qui sont encore issues de vieilles espèces où on a gardé justement cette petite morsure amère. Parce qu'en fait, l'amertume de l'endive, tout le boulot, c'est d'essayer de la contrebalancer par une vinaigrette un peu sur la suavité, quoi, pour donner un truc doux amer. Mais l'endive a la vocation à être amer originellement, quoi. Mais franchement, j'aime tout. Je saurais pas te répondre.
Ok. Un péché mignon inavouable.
Vraiment inavouable. Il y a une barre. Alors ça, je crois que je l'ai jamais. Ouais, non, j'en ai jamais vraiment parlé parce qu'en plus, je vais faire la pub pour un truc industriel. Je crois que c'est la marque Côte d'Or qui. Franchement, je suis assez nickel au niveau de mon alimentation, même si après, je suis pas un cocheur de cases où je cherche à m'acheter la bonne conduite, etc. Mais il est vrai
mais
que
tu fais attention.
Ouais, et je me suis depuis plusieurs décennies maintenant, depuis 15-20 ans, vraiment détaché de l'agro-industrie. Je peux avoir des fautes de goût, ça m'arrive même de mettre les pieds dans un supermarché, soyons fous. Mais il est vrai que je fais très attention à mon alimentation, et surtout j'ai commencé à faire attention à mon alimentation quand j'ai eu des enfants, parce que je voulais vraiment leur inculquer ces bonnes valeurs, telles que moi je les ai reçues de mes parents en fait. Mais il y a un truc que j'ai toujours aimé depuis tout petit, et cette barre, dès que je la chope, une barre sucrée, dès que je l'attrape dans une station essence sur l'autoroute, etc., je peux pas m'empêcher d'en acheter une, c'est le nougati. C'est-à-dire cette espèce de nougat enrobé de chocolat. Je sais pas si c'est, j'en mangeais quand j'étais petit, je sais pas si c'est le goût de l'enfance, je trouve ça réconfortant, ça me rappelle des trucs et je l'achète, quoi.
Si tu étais un ou une chef?
Deux.
Ouais.
En fait, je vais parler là un peu, je vais retourner vers ma région natale, profonde admiration pour la mère Brasier, avec cette performance énorme dans les années 30 d'avoir décroché 2 fois 3 étoiles aux 12 rues royales dans le 2e arrondissement de Lyon près des quais, mais également au col de la Luère où elle a eu 3 étoiles. Et puis ça a été la formatrice, de Paul Bocuse, de Bernard Paco. C'est une femme exemplaire avec un tempérament bien trempé et une cuisine que je rêve de regoûter, quoi. Donc mère Brasier, et puis évidemment profonde admiration pour un chef qu'on a un peu oublié, je le regrette beaucoup, c'est Alain Chapelle, l'ancien chef 3 étoiles à Mionnet, au nord de Lyon, qui faisait vraiment une cuisine paysanne avant l'heure avec que des produits d'extraction locale. C'est le premier à avoir mis en place sur sa carte des vins toute la collection des vins nature qu'on aime, des vins d'Arbois, les vins du Beaujolais, de Marcel Lapierre et d'autres. Et je suis très très admiratif de chef qui est malheureusement mort prématurément.
Cuisine corse, italienne ou française?
Ah, cuisine... Les trois, ma générale. Non,
ou grec,
cuisine française. Honnêtement, cuisine française, je suis super admiratif de toute la diversité de la cuisine française. J'ai un petit côté de temps en temps un peu chauvin, même si je m'efforce de regarder partout où il se passe de bonnes choses. Et justement, je veux surtout pas être franco-centré, mais je suis quand même assez bluffé par l'intelligence, le perfectionnisme culinaire qui existe historiquement en France et par cette diversité culinaire que nous ont offert autant de terroirs différents avec une topographie, des climats, des aussi différents, et cette notion de terroir dont on est à l'origine. Mais j'avoue que je penche beaucoup du côté de l'Italie aussi, parce que pour moi c'est le pays sœur ou le pays frère. J'aime cette cuisine par tous les bouts, de toutes les régions, de toutes les manières, et pas seulement les pâtes, les pizzas, le tiramisu et le prosecco, évidemment. Il y a là aussi une spectaculaire richesse totalement insoupçonnée dans la cuisine italienne. Et puis évidemment la cuisine de mon cœur, c'est beaucoup la cuisine corse, parce que je l'ai beaucoup fréquentée, dégustée grâce à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, dont j'ai connu aussi les recettes dans un petit village du Nebbiou au nord de la Corse, et par ma mère qui a perpétué aussi des savoir-faire, des traditions familiales. Donc c'est vrai que je penche un peu du côté de la Méditerranée, ça c'est un peu la cuisine de cœur. Et puis après la cuisine professionnelle, celle que j'ai acquise, celle que j'ai aimée, celle que j'ai commenté et observé par mon métier et dégusté, bien sûr, bah c'est la cuisine française de toutes les régions qui soient.
Est-ce que t'es plutôt restaurant ou plat fait maison?
Ouais, j'ai envie de répondre restaurant parce que j'ai été critique gastronomique pendant pas mal de temps. Je suis toujours, d'ailleurs. Le critique gastronomique, il est différent du journaliste gastronomique. Le journaliste gastronomique, c'est celui qui observe, qui décrypte l'actualité de la gastronomie. Et le critique, c'est celui qui porte un jugement critique en essayant de peser le bon et le moins bon dans les commerces de bouche, les adresses de bouche, les restaurants qu'il fréquente. Et moi, c'est vrai que je me suis occupé pendant près de 15 ans de la rubrique restaurant de l'Express. Et puis maintenant, je teste des restaurants pour mon émission Très Très Bon. Donc c'est vrai que l'écosystème du restaurant, je l'aime, je l'apprécie, je m'y sens bien. Après, j'adore aussi cuisiner à la maison. Mais le restaurant, c'est à la fois un havre de paix, une source de repos. C'est une parenthèse où je me sens bien, même quand je mange moyennement.
Ton restaurant préféré, du coup?
Mon restaurant préféré. Le problème, c'est que je suis incapable d'établir une liste. Ça dépend un peu des envies et des périodes. Assez récemment, j'ai renoué, il y a quelques mois, avec un restaurant. Et je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai attendu autant de temps pour ne pas y retourner? C'était le Baratin de Raquel Carena. Alors, il y a eu des circonstances. Raquel, qui est une chef super, a eu quelques problèmes de santé qui l'ont un peu éloigné des fourneaux pendant un certain temps. Son mari Pinuche, qui a été l'un des pionniers des vins nature à Paris. Et quand j'y suis allé, j'ai mangé cette espèce de cuisine simple, évidente. C'est quelqu'un qui vous fait la cuisine, quoi. Il y a trop de chefs qui ne vous font plus la cuisine, qui cherchent à mettre en place leur ego dans l'assiette, à vous montrer de quoi ils sont capables, à faire des plats assez démonstratifs. Elle se contente de nourrir bien et de nourrir justement à prix exemplaire. Donc voilà, par exemple, le Baratin, je me dis, mais évidemment, c'est une adresse où je rêve d'aller. J'adore le Café des Ministères parce qu'il y fait des spécialités que je kiffe particulièrement, comme le vol au vent, où j'aime bien cette tradition très française.
C'est marrant parce que du coup, c'est pas du tout méditerranéen, tu vois.
Non, c'est pas du tout méditerranéen, on est bien d'accord. Et en même temps, la Méditerranée à Paris, j'ai un peu tendance à m'en méfier parce que, même s'il y a des choses très sincères et très bien faites, elle coche un peu les cases d'une tendance qui ressemble un peu à un tsunami depuis qu'Ottolenghi a ouvert ses coffee shops à Londres. Et puis c'est vrai que aujourd'hui la cuisine méditerranéenne, disons que sans être trop snob, la cuisine méditerranéenne, j'aime la déguster dans des pays méditerranéens ou en Crète par exemple, où je suis allé il y a un an et j'ai adoré ce fameux régime crétois.
Ton dernier restaurant coup de cœur alors?
Alors là, sans hésiter, c'est marrant parce que j'y suis allé il y a quelques jours pour les besoins de mon émission Très Très Bon. Donc je me pointe avec ma petite caméra dans le 19e arrondissement, dans un restaurant qui s'appelle Polonia.
Okay.
Par ce couple s'est rencontré chez Alain Passard. Et ils font une cuisine, une très belle bistronomie avec des fondements classiques. Et en même temps, ce petit twist qui montre qu'ils ont tout compris. Avec un sourcing exemplaire, avec une carte des vins qui propose des découvertes assez étonnantes. Un petit décor où on sent super bien, mais vive Polonia. Et Polonia, attention, c'est P-A-U, enfin, c'est le nom, en fait, de cet arbre qui a une capacité de croissance surréaliste et qui pousse le long de la façade. Donc là, en hiver, il ressemble pas à grand chose, mais il paraît que quand on revient au beau jour, ce fameux Polonia, avec cette orthographe un peu bizarre, il peut monter à 5 mètres en faisant des feuilles qui ressemblent en fait à des parapluies, quoi. C'est vraiment un arbre tout à fait étonnant.
Incroyable.
Et c'est aussi, du coup, un restaurant qui vaut le coup.
Est-ce que tu peux maintenant te présenter de façon plus traditionnelle? Qui es-tu, François-Régis Gaudry?
François-Régis Gaudry, bah, je suis journaliste gastronomique, voilà. Et quand je dis journaliste gastronomique, c'est pas forcément un gros mot, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour le mot gastronomie. Malheureusement, ce mot gastronomie, il a été un peu connoté. Il est un peu aujourd'hui le synonyme, en fait, de ce sport de riche qui consiste à aller au restaurant et d'y laisser une addition, d'y laisser un bras avec une addition à 3-0, quoi. Alors que pour moi, la gastronomie, c'est le discours sur ce que l'on mange. Gastro, c'est toute la sphère de la digestion. Et nomie, c'est la norme. Donc en fait, c'est la loi de ce que l'on mange. Et pour moi, c'est un très chouette mot que je revendique, en fait. Voilà, donc journaliste gastronomique dans différents secteurs et sur différents terrains, à la radio, à la télévision et dans l'édition essentiellement, et puis un peu sur les réseaux sociaux, parce que il faut y être, quoi.
Comment t'en es venu à l'alimentation? Parce que donc tu fais des études de lettres à Sciences Po et des études en parallèle de lettres, tu deviens journaliste et tout de suite tu te spécialises dans l'alimentation, tu travailles au fooding.
Ouais.
Qu'est-ce qui te fait aller vers l'alimentation?
En fait, j'ai d'abord été un peu journaliste généraliste. Moi, ma passion, c'était d'être journaliste. Je le souhaitais, okay, vraiment depuis super longtemps. Je me souviens qu'en sixième, j'ai eu ma première conversation avec mes parents. J'étais fasciné par Bernard Rapp, qui animait le journal de France 2. Je trouvais que c'était un métier extraordinaire de commenter l'actualité, etc. Et puis après, je me suis dit, comment je vais arriver à être journaliste? Donc, j'ai fait Sciences Po à Paris, mais de manière un peu généraliste. Puis après, je suis devenu journaliste un peu littéraire dans une émission qui s'appelait Un Livre Un Jour, animé par Olivier Barrault. Après, j'ai été journaliste généraliste à l'Express, en économie, et puis un petit peu en politique. Et il y a vraiment eu un basculement à partir de 2005, 2005-2006, lorsque Jean-Luc Petit-Renaud, qui s'occupait des pages restaurants de l'Express, qui est donc cet aîné dans le métier, journaliste gastronomique, qui a bercé mon enfance avec son émission Carte Postale Gourmande sur France 5, a quitté en fait les pages restaurants. Et là, la direction de l'Express de l'époque m'a proposé de le remplacer parce qu'il savait effectivement que j'avais une appétence particulière pour le sujet. Mais c'est vrai que la gastronomie, j'ai jamais voulu en faire un métier, en fait. C'était davantage une espèce de hobby, un violon dingue, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire cette espèce de loisir ou de passion intime, mais dont que je voulais pas forcément transformer en ambition professionnelle, quoi. Parce que j'ai grandi dans une famille où on était assez sérieux avec la chose, où on m'a appris à porter une attention particulière sur ce qu'il y avait dans mon assiette. Et c'est vrai qu'après, ces connaissances que j'ai accumulées, ces expériences, cette envie, ces émotions, je les ai effectivement transformées à partir de 2005 en métier, parce que je suis devenu critique gastronomique et je me suis peu à peu spécialisé dans l'alimentation.
Mais donc c'est plutôt la gastronomie qui t'a choisi en fait, que toi qui as choisi la gastronomie.
Bah ouais, on peut dire ça, c'est un peu un mélange de passion et de hasard parce que j'ai eu les bonnes propositions au bon moment et quand j'y pense, ma carrière est un peu un alignement de planètes parce que j'ai jamais frappé à aucune porte en fait. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Je pense qu'il y a aussi une part de chance quoi, il y a une part de destin, il y a un truc qui fait que je me suis rendu compte en y repensant, en fait en regardant un peu en arrière, que on m'a fait cette proposition parce qu'on savait que dans les conférences de rédaction à l'Express, je parlais beaucoup de bouffe, de tendance alimentaire, de chef. Moi-même, à titre perso, j'avais écrit au Guide du Routard, Paris exotique, avec des restaurants étrangers que je faisais en parallèle de mes études, donc j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que c'est un peu pris le dessus, en fait, et ça m'a un peu, comme tu dis, c'est un peu la gastronomie qui m'a choisi. Et puis ensuite, après, cette passion, je l'ai entretenue, j'ai beaucoup travaillé, j'ai écrit beaucoup d'articles dans l'Express, et puis peu à peu, on m'a proposé des choses, c'est-à-dire que la radio est venue à moi, avec un jour un coup de fil de la direction d'Inter qui me propose d'animer une émission de radio. La télévision est venue à moi. L'édition est venue à moi. Vraiment, hein. C'est pas, d'ailleurs, les gens qui ont participé en quelque sorte à tous ces, à cette aventure le savent, quoi. Et j'ai pas eu le temps, en fait, presque de frapper à des portes.
Ok, donc en fait, quand si je te pose la question, comment fait-on pour devenir François-Régis Gaudry? Malheureusement, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse parce qu'il y a beaucoup
Non, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a peut-être quand même, bon, il y a peut-être beaucoup de passion, parce que mes parents m'ont rendu service en effectivement, non pas m'orientant, non pas me conditionnant, mais en tout cas en m'éduquant sur ce point.
Oui, il y a beaucoup de culture hein, quand même sur ce sujet.
Ouais, parce que c'était une affaire sérieuse. Encore une fois, moi j'ai deux frères et une sœur, ils ont la même passion que moi. Bon, ils sont pas devenus restaurateurs, chefs, critiques gastronomiques, etc. Mais quand on se retrouve, je sais pas, là j'ai passé Noël avec mes frères et ma sœur. Je les vois manger, je les vois commenter la cuisson d'une volaille et tout. Je me dis bah c'est bon, ça y est, j'ai compris d'où je viens quoi. On partage les mêmes. Alors moi j'en ai fait mon métier, donc je suis devenu peut-être un peu plus pointeux, mais ils ont tous les bons réflexes en fait. Donc je me rends compte qu'effectivement on est conditionné familialement et culturellement. C'est pour ça que moi aussi j'ai à cœur d'essayer de transmettre et de participer à cette œuvre d'éducation dans les écoles, etc. Mais c'est un truc. Après il y a beaucoup de travail. Je suis obligé de dire que j'ai beaucoup travaillé quoi. Ça tombe pas non plus du ciel, hein. C'est-à-dire à un moment donné on travaille beaucoup, j'ai même peut-être travaillé de manière un peu à un moment donné je travaillais beaucoup, j'ai fait des sacrifices aussi, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup de travail.
Ouais. Aujourd'hui quand même quand on pense à toi, je pense qu'on pense immédiatement à la radio, à France Inter, on va déguster, ce qui peut être surprenant parce que la cuisine a quand même un côté très visuel. Comment tu vis ce métier d'animateur radio? Est-ce qu'il est pour toi essentiel dans ton métier?
Ouais, il est essentiel et je pense que ma carrière a changé quand on m'a proposé cette émission de radio parce que il y a un truc que vous diront et tu le sais certainement aussi puisque tu pratiques ce métier et que te diront tous les journalistes, les producteurs, les animateurs de radio, c'est un média qui ressemble un peu à une drogue dure quand tu l'exerces en fait. C'est-à-dire que la radio, il y a un truc grisant où à la fois tu te sens un peu protégé par le fait que tu te montres pas vraiment, qu'il y a une relation justement immédiate en direct puisque je suis le plus souvent en direct avec les auditeurs auditeurs et les auditrices. Et ce que n'offre pas la radio, c'est-à-dire ce qu'offre la télévision, bah c'est finalement, on pourrait penser que c'est une contrainte. Et en fait, cette contrainte, elle se transforme en énorme liberté. C'est-à-dire que moi, je dis souvent que la radio, c'est pas l'image, mais c'est l'imaginaire. Et déclencher ou faire prospérer l'imaginaire dans l'esprit de ceux qui t'écoutent derrière leur transistor, comme disait mon papa, transistor, bah c'est un truc assez grisant en fait, où t'es pas encombré finalement par tout ce qui concerne est-ce que j'ai la mèche bien placée quand tu fais de la radio, de la télévision, tout d'un coup quand tu es pris en photo, tu fais attention à ton apparence, les fringues que tu portes, etc. Moi la radio, j'arrive en survette, il y a juste ce qu'on dit au micro qui compte, il y a l'échange aussi avec des invités qu'on essaie de caster le mieux possible, et il y a quelque chose de terriblement grisant et addictif en fait. Donc oui, la radio, elle est carrément au centre du jeu, puis c'est une émission qui a un certain impact, même si il faut jamais se reposer sur ses lauriers, parce que en plus il nous arrive de faire des émissions ratées. Parfois c'est comme en cuisine, t'as beau faire tous les dimanches une mayonnaise, et puis le cinquième dimanche, tout d'un coup, ta mayonnaise...
Elle prend pas,
elle prend pas, tu sais pas trop pourquoi. Et ben ça peut arriver que l'émission prenne pas vraiment, et que l'émission soit un peu à côté de ce que tu imaginais. Mais il y a un artisanat dans la radio qui est très grisant, c'est qu'en fait, malgré tout ce que tu peux imaginer, tu imagines ton émission, tu imagines les questions que tu vas poser, t'en poses la plupart, et en fait, tes invités t'emmènent souvent à un endroit où tu imagines pas, et il serait quelque chose d'un peu nouveau. Donc en fait, c'est ça qui est assez grisant, quoi. C'est que une émission de radio, quand elle commence, c'est une espèce de terra incognita, qui t'emmène dans un voyage, dont tu espères faire profiter les auditeurs et les auditrices.
Donc tu ne t'en lasses pas, en tout cas,
non,
après toutes ces années.
Non, on s'en lasse pas. Et on s'en lasse d'autant moins que, par ailleurs, je me suis entouré de chroniqueurs et de chroniqueuses un peu différents, qui portent un regard différent, qui ont des champs d'expertise différents. Et moi, j'ai toujours été très curieux de ça, en fait. J'ai jamais voulu rester dans une espèce d'entre-soi à la radio ou à la télévision. Chaque année, je fais un à deux essais micro. Pour entendre les uns, les unes, les autres, voir de quoi ils sont capables, ce qu'ils peuvent. Parfois, je regarde des gens sur les réseaux sociaux, parfois il y a un timbre de voix qui me plaît, parfois il y a un discours que je trouve intelligent. Donc effectivement, ça m'arrive très souvent en fait de contacter des gens de la nouvelle génération, parce que je trouve que je jouerais certainement pas aux vieux cons. Et je trouve qu'il y a dans la nouvelle génération, il y a plein de talents énormes, y compris dans le journalisme gastronomique, avec des regards différents. Et j'ai beaucoup d'intérêt à regarder ce qui se fait et à leur proposer justement de faire des essais micro pour voir si on peut justement enrichir l'émission. Et c'est peut-être comme ça que l'émission s'est pas reposée sur ses lauriers.
À côté de ça, tu as commencé par la presse écrite. Aujourd'hui, tu es moins dedans. Est-ce que pour toi, quand même, quel rôle elle joue, la presse écrite, dans ton parcours, et quelle vision tu as de la presse écrite food aujourd'hui ?
J'ai beaucoup aimé la presse écrite parce que c'est une activité journalistique particulièrement exigeante, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices aussi, parce que écrire un papier de 5000, 7000 signes sur 3, 4 pages dans un hebdo ou dans un quotidien, si on veut faire les choses avec sérieux et si on veut enquêter, ça prend beaucoup de temps. Ça prend le temps du terrain, ça prend le temps de l'enquête, des interviews au téléphone, parfois des interviews en face à face. Et puis après, il y a tout cette espèce de puzzle d'informations qu'il faut assembler à travers un texte cohérent, avec une accroche, une chute, une articulation des arguments. Et c'est en fait un travail assez noble, j'ose le dire. Et moi, j'ai beaucoup souffert à écrire au début. Mes premiers papiers pour l'Express, qui étaient en plus à l'époque, dans les années 2000, un hebdomadaire qui était vraiment super lu, quoi, qui avait un gros impact. J'avais un peu la pression d'écrire des papiers qui ressemblent à quelque chose, en apportant quelque chose de neuf et tout. Et c'était un métier qui demandait beaucoup d'efforts. Là, je vais pas dire que la radio, évidemment, c'est un loisir. La radio aussi, elle demande des efforts. Mais la presse écrite, il y a un truc. Et puis le simple fait de manier l'écriture, quoi. Il y a quelque chose, encore une fois, d'assez... Qui relève un peu du labeur au sens étymologique du terme, avec ce que ça comporte aussi d'efforts et de souffrance.
Ouais, et c'est probablement moins bien payé que la radio, non ?
Ouais, et ça c'est un vrai problème. Aujourd'hui, la presse écrite, elle disparaît. Je suis pas très inquiet pour l'écrit, parce que par ailleurs, il s'exprime à travers d'autres formes. Mmh. On le voit à travers le succès des livres de cuisine, mais on le voit aussi à travers des revues qui font souvent sens, qui sont souvent des revues engagées ou des MOOC. Et puis ça prend aussi même l'écriture, hein. Parfois, il peut y avoir de merveilleux petits textes condensés sur Instagram ou les réseaux sociaux. Donc je crois beaucoup à l'écrit, mais cet écrit, il est en train d'explorer effectivement des formes différentes. Mais la presse écrite, elle est un peu mal en point. Elle est en train de clairement se paupériser Et c'est fort dommage.
En parlant des livres de cuisine, justement, tu as écrit des encyclopédies et on va déguster la France, l'Italie, Paris, qui ont eu énormément de succès. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ces encyclopédies? Alors, tu as dit, c'est les éditeurs qui sont venus à toi, mais ouais. T'avais quand même cette idée en tête?
Pas du tout. Moi, j'ai écrit pas mal de livres de cuisine avant, mais c'était des livres de cuisine qui étaient en fait, j'emploie pas la bonne expression, parce que c'était des livres de gastronomie et c'était tout sauf des livres de recettes. J'ai écrit des livres sur les sujets qui me passionnaient, en faisant ça en parallèle de mes activités journalistiques, un livre sur la figue, qui est peut-être bien l'un de mes fruits préférés, voilà, la Méditerranée est à nouveau là, les fruits exotiques, même si c'est un peu moins le cas, un bouquin en 2006 sur l'histoire du restaurant, etc. Mais c'est vrai que ces encyclopédies, j'avais pas du tout vocation à écrire des livres de recettes. Et lorsque les éditions Marabout m'ont démarché pour me dire on voudrait faire un best-of des meilleures recettes dont on va déguster, ils m'ont fait la proposition, je me souviens, en 2013, j'aurais dit non. Et je sais pas, pendant 2 ans, je répondais gentiment à leurs textos, mais j'étais pas du tout motivé. On s'est revus plusieurs fois, puis j'arrivais pas à trouver la petite étincelle, vous savez, qui fait que dans un projet, au départ, ça commence par une petite étincelle, puis si vous alimentez un peu, ça se transforme tout d'un coup en feu de brindille, et puis après, ça peut devenir un feu de joie, quoi. Et quand ça devient un feu de joie, on sait que le projet, il est là, on le touche de près, on sait qu'on va en faire quelque chose. Bah là, pour arriver au feu de joie... Autant dire qu'on est passé par pas mal de péripéties et j'ai freiné des cas de fer et puis finalement un jour je leur ai dit bah pourquoi pas faire une encyclopédie mais en aucun cas un livre de recettes en fait. Plutôt faire une espèce de bouquin qui rassemblerait de façon peut-être un peu mégalo d'ailleurs, qui rassemblerait tout ce que j'aime en cuisine. Et c'est comme ça que ça a commencé en 2015 avec un premier bouquin qui s'appelle On va déguster. C'était... Il n'y avait pas de destination particulière et on mettait ma passion des chouchis juste à côté de ma passion pour le pesto à la genovese. Et puis ensuite, on tournait et on avait une échelle de la puanteur pour faire comme ça une espèce de typologie des ingrédients qui sont les plus puants du monde. Et c'est comme ça qu'on s'est amusé à travailler en équipe et à faire ça. On s'est pris au jeu, ça m'a plu. Et puis ensuite, a démarré effectivement l'aventure de cette collection. Mais l'aventure de cette collection, elle est née un peu dans la douleur. Et elle est née surtout à la suite d'une série de renoncements, quoi. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Et au bout d'un moment, effectivement, après une gestation longue, cette idée est apparue comme ça, et puis je me suis pris au jeu.
Est-ce qu'il y a un nouveau, on va déguster, qui est en...
Mais c'est marrant parce que... Non, en fait, j'y arrive pas. Enfin, je veux continuer à faire les choses avec sincérité. Et je sens le moment où, tout d'un coup, après avoir fait vraiment des bouquins qui me tiennent à cœur sur des destinations que je connais bien ou que j'avais envie de mieux connaître, parce que c'est souvent ça un bouquin, il y a le plaisir égoïste d'en savoir davantage sur un sujet aussi. Bah, la France, évidemment, mon pays, l'Italie, mon autre pays, ou plutôt mon pays culinaire. Il y a mon pays maternel et mon pays culinaire. Et puis après, Paris, parce que j'adore cette ville et je la vis, je la croque. Mais après, je sais plus. Après, je me dis, j'ai d'autres passions. Alors commercialement, votre éditeur va vous dire mais non, ça va pas la tête, des choses qui me tiennent à cœur, et puis par contre il y a des choses qui seraient plus raisonnables commercialement mais j'ai moins envie de les faire, donc je suis un peu dans une impasse pour l'instant. Mais et puis j'ai du mal à justement cette histoire de feu sacré là qui rejaillit, j'ai du mal à
l'entretenir là.
Ouais, à l'entretenir et je peux pas faire les choses si elle m'habite pas quoi en fait.
Et puis c'est un travail de dingue.
Voilà, c'est un travail de dingue. Et donc quitte à ce que ce soit, quitte à y aller à fond et à dépenser beaucoup d'énergie collectivement, autant que ce soit une aventure qui vous stimule et vous nourrisse quoi.
Ok. On te retrouve aussi à la télé. On en a parlé sur Paris Première avec Très Très Bon et sur M6 avec Top Chef. C'est la télé qui est venue à toi, mais est-ce que c'était quand même important pour toi de faire de la télé?
Non, pas du tout.
Ok.
Mais franchement non, parce que je me suis même j'ai même freiné des cas de fer au début. J'avais cette paranoïa de ne pas me montrer. Un peu à la manière de quelqu'un que j'admirais beaucoup et que j'admire beaucoup, c'est François Simon, avec qui j'ai eu la chance d'échanger régulièrement, un peu moins maintenant, mais c'est quelqu'un que je suis et que je respecte beaucoup.
Pas te montrer En tant que critique gastronomique.
Ouais. Je voulais pas me montrer, du coup, je voulais pas me montrer à la télévision. J'aimais cette espèce de mythologie de l'anonymat, du mangeur masqué qui se montre pas. Et puis, en fait, c'était pas qu'une coquetterie parce qu'on se rendait compte qu'en allant dans des restaurants où on n'était pas connu, bah, finalement, on était libre. Et je crois que le plus libre d'entre nous, c'est certainement encore celui qui a réussi à maintenir son anonymat, c'est François Simon, justement, dont on ne connaît toujours pas la tête ou très peu. Et c'est vrai que ça, c'est un luxe, en fait. Moi, à un moment donné, j'ai été dépassé par cette question. Je voulais vraiment garder l'anonymat. Et puis, je commençais à voir des photos de moi qui circulaient sur Google. Alors, au départ, j'appelais les médias, je disais, si vous pouvez enlever la photo, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment garder mon anonymat. Puis après, j'étais un peu débordé, notamment au moment de la télévision et justement, au moment de la radio.
Oui, parce que la radio s'est mise à filmer.
Voilà. Alors, non. Justement, j'avais refusé, justement, d'être filmé à la radio. Okay. Mais en revanche, il y avait des photos qui étaient prises. Parfois, vous aviez des invités. Tiens, je suis sur France Inter qui prenait une photo, on me voyait, puis on dit, ah ben, il y a des gens qui me disaient, ben voilà, on connaît ta tête, on s'est quitté. Puis après, des restaurateurs ont commencé à savoir qui j'étais. Puis après, j'ai commencé à découvrir dans certains restaurants des trombinoscopes où il y avait carrément la photo de moi qui avait été certainement, un attaché de presse ou une attachée de presse s'était procuré une photo de moi, l'avait donné à des chefs. Et en fait, l'anonymat devenait un peu fake, devenait un peu un truc artificiel. Et c'est là où j'ai finalement décidé de baisser la garde. Et au départ, quand je faisais de la télé, je l'ai accepté en faisant justement de la caméra subjective au restaurant, mais sans montrer mon visage. Et puis ensuite, j'ai accepté de le faire, mais un peu sur le tard, quoi. Quand j'avais, il y a une... Il y a 8-9 ans, 8 ans.
Mais est-ce qu'il y a une volonté quand même de parler au plus grand public, tu vois, de dépasser les auditrices et auditeurs de France Inter, qui sont quand même une certaine partie de la population qui n'est pas celle de Top Chef, et donc d'être plus grand public?
Ouais, ou en tout cas la volonté de parler peut-être à des publics différents, parce que j'ai l'impression qu'à France Inter, j'évolue un peu dans mon milieu naturel. Ouais, tu vois ce que je veux dire, ça. Je veux pas dire que je parle à des gens comme moi parce que ça veut rien dire. En fait, la réalité sociologique de l'auditorat d'Inter est très large. En réalité, j'ai la chance avec Inter de parler à la France entière. Il y a des gens de toute origine, de toute religion, de tout âge, de toute génération, de toute origine géographique aussi, qui m'écoutent, et ça c'est très satisfaisant. Et bien au-delà effectivement de la catégorie des urbains qui ont la chance d'être un peu renseignés sur ce qu'ils peuvent manger, qui ont éventuellement certains moyens pour se nourrir bien, qui vont acheter leurs légumes dans des AMAP, même si je fais justement une émission sur les AMAP dans 15 jours et je me renseigne beaucoup sur le sujet. En fait, il y a de nouvelles études qui montrent que quand on achète ses légumes dans les AMAP, c'est pas plus cher et parfois même moins cher que dans la grande distribution. Donc là aussi, il y a des idées reçues auxquelles il faut tordre le cou. Mais en tout cas, il est vrai que d'aller ensuite sur Paris Première, qui est encore un autre public, et Top Chef, qui est encore un autre public, et ben finalement, je prends ça comme une chance, en fait, de m'adresser vraiment à des profils sociologiques très différents, sans adapter pour autant mon discours, en parlant peut-être un peu différemment, mais sans trahir mes valeurs. C'est surtout ça qui compte, quoi. C'est-à-dire que j'essaye, autant que faire se peut, de rester le même, quelles que soient les personnes auxquelles je m'adresse. Et ça, je trouve que c'est un exercice qui m'oblige à me poser des questions, et qui... Avec à la clé effectivement la satisfaction d'essayer de parler au plus grand nombre.
Tu te sens pas brimé du coup par la télé, parce que c'est vrai que dans tes émissions On va déguster, on sent un certain engagement, tu fais passer des messages en fonction des personnes que tu invites, notamment sur le sujet de l'agro-industrie. Est-ce que tu arrives à faire passer ces messages aussi à la télé?
Non, pas de la même manière. On va pas se mentir, quand je fais Top Chef, on a affaire à du grand spectacle que je respecte, parce que par ailleurs, j'ai eu l'occasion pour y travailler de l'intérieur depuis un moment, de constater que franchement, que rien n'est... Moi, quand j'allais à Top Chef au départ, on m'a proposé Top Chef. Bon, c'est toujours une émission que j'ai respectée, parce qu'en l'occurrence, elle a fait naître dans notre paysage alimentaire et gastronomique des talents qui n'en seraient sans doute pas là sans Top Chef. Donc, on se rend compte que Top Chef est devenu une véritable école de cuisine, et que l'on aime ou pas le programme, on est obligé d'en tenir compte quand on est journaliste gastronomique. Il y a beaucoup de chefs qui font Top Chef, qui sont révélés par cette émission, et qui ensuite font des carrières intéressantes à Paris, en région, région, etc. Donc Top Chef est incontournable. Mais après, c'est vrai que quand j'y allais, je me disais, mais ça va être du gros spectacle avec des ficelles qu'un producteur tire, on va me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire. Et en réalité, alors il y a un montage qui est là, évidemment, pour formater l'émission et pour qu'elle soit efficace et qu'elle corresponde aussi à ses objectifs d'audience qu'elle s'est fixée. Mais je ne peux que constater que je suis moi-même à Top Chef. Alors après, je suis moi-même dans un rôle qui est assez technique et qui est un rôle, en fait, de critique gastronomique qui décrypte des assiettes. Je suis pas là vraiment pour dire oulala, attention, là on tourne en hiver, vous m'avez mis de la tomate. Parce que d'ailleurs, en plus, il n'y a pas d'effet de saison, puisque ça va être diffusé en l'occurrence à partir du printemps. Donc je suis pas vraiment là pour... je peux éventuellement dénoncer des choses.
Oui, parce qu'il y a un sujet quand même sur l'impact environnemental de l'émission, que ça soit le gaspillage alimentaire potentiel.
Oui, mais là, pour le coup, ils ont fait de gros progrès. Moi, je me suis effectivement beaucoup renseigné là-dessus et j'avais à cœur d'être irréprochable et propre de ce point de vue-là. Désormais, toutes les denrées qu'il y a dans le garde-manger, évidemment, mais ça fait déjà quelques saisons, ne sont pas mises à la poubelle, sont redistribuées par des associations qui redistribuent des invendus alimentaires, etc. Et Top Chef le fait pour des raisons de communication, mais le fait aussi par sincérité, parce que effectivement, ça paraît absolument déraisonnable de jeter la moitié d'une cagette de topinambour parce qu'il y a que deux candidats qui s'en sont servis pour une épreuve. Donc, évidemment, de ce côté-là, je crois qu'ils sont... ils se sont vraiment imposé une éthique qui fait qu'on peut pas tellement faire de reproches à Top Chef de ce côté-là.
Mmh, ok. Dans le cadre de la vidéo, tu t'es mis à faire des recettes sur les réseaux sociaux et à développer une véritable communauté, notamment sur Instagram. Pourquoi tu as eu envie de faire ça?
Je suis pas sûr que là aussi ce soit vraiment une envie, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais confiné en Normandie, s'est posé la question de comment je continuais à exercer mon métier à la radio. Alors, la direction de l'époque, enfin Laurence Bloch et Yann Chouquet, le directeur des programmes de France Inter, m'ont proposé au bout du deuxième jour de confinement d'animer le dimanche une émission de 2 heures en direct avec uniquement des invités par... non pas sur place parce qu'on n'avait pas le droit évidemment de bouger, mais plutôt par Zoom ou d'autres applis qui permettaient d'avoir les gens en direct, mais également des auditeurs que l'on prenait au téléphone. Et il y avait comme ça une relation d'échange pendant 2 heures avec cette émission qui m'a beaucoup intéressé. Ça a été une expérience professionnelle vraiment incroyable. Et puis j'avais également une chronique dans la matinale du week-end qui consistait en fait à aller faire une recette avec mon petit micro chez un chef ou une chef. Et là, je pouvais plus, par définition. Et puis, je me souviens que la direction d'Inter m'a dit « Mais pourquoi tu ferais pas, du coup, si t'es confiné, tes propres recettes à toi avec un produit de saison, en fonction de ce que tu peux trouver dans les commerces de bouche, sachant qu'à l'époque, c'était en plus très compliqué de faire ses courses, on s'en souvient tous. » Et c'est comme ça que j'ai commencé... ma sœur était confinée avec nous. J'ai commencé à lui filer mon iPhone et elle a commencé à tourner une première recette, une deuxième, et ça s'est fait de manière super spontanée comme ça. Puis après, je me suis pris au jeu, et comme ça marchait bien en termes d'audience et de trafic sur les réseaux sociaux de France Inter, parce que c'était d'abord destiné aux réseaux sociaux de France Inter, et puis ensuite la vidéo a été diffusée sur mon Instagram, on a continué à tourner des recettes, et on le fait désormais. C'est devenu un rendez-vous hebdomadaire sur lequel je travaille ardemment, et c'est en plus un truc qui me pousse justement aussi à tester des recettes à la maison, et être toujours aussi attentif des tours de main et des recettes que je peux trouver dans les restaurants que je visite.
Mais il y a une envie de convaincre tes followers à cuisiner?
Ouais, en tout cas, il y a cette envie, comment dire, d'abord il y a cette envie de ne pas se prendre pour un chef, parce qu'il faut pas mélanger les métiers. Moi, j'ai trop de respect pour les chefs dont j'admire le travail, qui font ce métier après une formation souvent longue, etc. Moi, j'ai pas de CAP. Il y a encore des termes techniques que je connais pas forcément, même si je me suis un peu musclé en la matière. Mais moi, l'idée, c'était de faire des recettes quotidiennes et ménagères, des recettes familiales, en fait, avec des produits de saison, souvent bon marché, même le plus souvent bon marché, et surtout en n'utilisant pas toute une armada de d'ustensiles et de robots, etc., de faire en quelque sorte une cuisine familiale de saison, bon marché et low cost, pas low cost, mais voilà, low cost, mais surtout low tech aussi. Ouais. C'est-à-dire avec assez peu d'ingrédients, quoi. Et c'est comme ça que il y a cette idée, évidemment, de montrer qu'on peut cuisiner à la maison avec assez peu d'ustensiles et d'ingrédients. Et puis il y a la satisfaction de voir aussi des messages sur les réseaux sociaux de gens qui sont pas forcément habitués à à cuisiner, ouais, mais qui ont été emportés par l'envie de faire, par exemple, le guacamole de brocoli ou d'autres recettes comme ça qui ont bien marché.
On va parler maintenant un peu du secteur de la gastronomie et des médias. Comment tu as vu évoluer le secteur de la gastronomie depuis tes débuts ? Est-ce qu'il a changé ?
Il s'est surtout considérablement enrichi, étoffé, jusqu'à un point qu'on avait assez peu vu, quoi. C'est sans précédent, j'ai presque envie de dire. Moi, je pense que j'ai sans doute eu de la chance en étant porté dès mes premiers pas dans le métier par un réenchantement de la gastronomie auquel j'assistais, quoi. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire que on a connu un peu des années sombres dans les années 90. Et en même temps, c'est sous la contrainte de la guerre du Golfe, de la difficulté de la situation économique qu'est née la bistronomie. Là aussi, hein, une gastronomie de contrainte. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire mes premiers pas dans les années 2000 où la gastronomie redevenait le truc du moment. Il y a eu le fooding qui a beaucoup contribué d'ailleurs à cet essor. Et il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, quoi. Le fooding a apporté un regard neuf, enjoué, convivial, décontracté sur un truc qui était souvent considéré comme un peu gonflant, ronflant, poussiéreux. Et c'est vrai que le fooding, moi j'ai fait mes dents là-bas, j'ai aimé cet écosystème qui mettait en avant de formidables chefs qui eux-mêmes du coup se sentant soutenus par un média qui prenait de plus en plus d'importance, avaient envie de faire des choses, se surpasser. C'est comme ça que on a aujourd'hui une très belle scène gastronomique à Paris et en France, même si attention, il n'y a pas que le fooding, parce qu'après il y avait encore des rubriques gastronomiques qui étaient assez offensives et assez influentes dans les médias traditionnels, etc. Mais c'est vrai qu'on a vu monter comme ça une mayonnaise avec de plus en plus de talents qui ont rallié cette grande tendance, avec même si ça a pris pas mal de temps, des femmes chefs qui se sont mêlées du sujet aussi, et avec énormément de talent. Et aujourd'hui, la gastronomie, c'est devenu carrément un truc super statutaire, à tel point qu'on est obligé d'envisager les dérives, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Moi, je suis bluffé par la fertilité de cet écosystème, l'écosystème de la gastronomie française et parisienne. Et en même temps, évidemment, bah, ça charrie certains travers, ça déclenche certains abus. Parfois, on voit naître des tendances qui prennent des proportions absolument surréalistes, alors qu'en fait, quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est souvent un peu gadget. C'est-à-dire que, évidemment, comme la gastronomie est devenue un peu le truc du moment, ça a rallié, ça a fédéré beaucoup de talents, et parfois des talents qui n'ont pas forcément toujours une grande sincérité, ou qui n'ont pas forcément... qui font plus le truc par opportunisme commercial que par réelle envie, quoi.
Ouais. Sur les questions écologiques qui sont évidemment les questions qui nous intéressent ici, est-ce que tu as l'impression que la restauration a évolué sur ces questions-là, que les restaurateurs prennent leur part sur ces enjeux-là ?
Ouais. Alors, c'est toujours oui, j'ai envie de dire oui. Globalement, j'ai envie de dire oui parce que moi qui suis plutôt un peu pessimiste dans la vie, quoi. J'ai un truc, dès que je vois un petit nuage dans un ciel bleu, je me dis qu'on va se prendre une trempée pas possible en 2 heures. Mais par contre, professionnellement, j'ai appris à être optimiste et j'ai appris à regarder le verre à moitié plein. Donc, pour te faire une réponse semi-optimiste, c'est-à-dire en regardant plutôt le verre à moitié plein, j'ai tendance à penser qu'il y a eu un gros chemin parcouru et que les chefs, surtout de la jeune génération, il faut bien l'avouer, parce qu'ils sont mieux armés culturellement et techniquement pour affronter les enjeux et les périls écologiques qui se présentent à nous, alors que l'ancienne génération est encore issue d'une époque où on pouvait gaspiller sans compter, où on pouvait jouir sans entrave, sans forcément se soucier de toutes les problématiques environnementales qu'il y avait en amont de l'alimentation. Et là, je trouve que grâce à la jeune génération, effectivement, en 10 ans, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Alors certes, on est au milieu du guet. Certes, des fois, on a quand même... quelques raisons de désespérer quand on voit les choses en se disant mais merde, ça va pas assez vite. Et en même temps, partout où je tourne mon regard, c'est peut-être aussi mon radar qui me pousse à m'orienter vers les belles initiatives qui ont du sens, et Cotable en fait partie. Je dis pas ça pour voilà, ça fait un moment que je regarde ce que vous faites, etc. Et il y a évidemment cette initiative qui est une très belle preuve que justement les choses bougent dans un milieu qui par ailleurs était quand même un milieu assez tradi, parfois même un peu réac, avec des pesanteurs, un certain immobilisme qui faisait peine à voir, quoi.
Mais la gastronomie française reste beaucoup tournée vers les protéines animales.
Ouais.
Est-ce que tu as l'impression que quand même on va finir par s'en détacher ? Hormis les quelques chefs, tu as parlé de Manon Fleury, je crois, tout à l'heure, évidemment, qui s'en sont clairement détachés.
Ouais, mais qui... Regarde, Fanny... Le rôle de Manon Fleury, quoi, c'est un peu une ambassadrice qui a un rôle médiatique important, qui occupe les médias mais à sa juste place pour porter la bonne parole et puis pour faire prospérer aussi un écosystème que je trouve économiquement, socialement, écologiquement, humainement sain et fécond, quoi. Donc Manon Fleury, par exemple, elle a une belle influence médiatique. Elle m'a rejoint aussi comme chroniqueuse dans mon émission pour y délivrer toujours des messages importants et des recettes surtout que je trouve vibrantes. Quoi. Et je trouve que bah, je préfère regarder le travail de Manon Fleury qui évidemment essaye de se détacher de la protéine animale, même si je crois pas qu'elle ait vraiment la volonté de rompre définitivement. Je crois pas d'ailleurs que ce soit une bonne idée, soyons clairs. Moi je pense qu'il faut inverser la proportion, c'est-à-dire que moi je continuerai à être un omnivore convaincu et militant, mais à condition évidemment bah, d'abord de se renseigner sur l'origine des protéines animales que l'on consomme, et surtout pour inverser effectivement la balance. C'est-à-dire, avant c'est évidemment, on le sait, 70% de protéines animales, 30% de protéines végétales. Désormais, il faut que ce soit l'inverse. On sait que la majorité de notre alimentation, elle doit être d'abord végétale, et que la viande, les protéines animales, les œufs, le fromage, le beurre, ça doit être que la cerise sur le gâteau, en fait. Mais je trouve que il y a évidemment un énorme décalage entre le petit écosystème de la gastronomie qui finalement est un laboratoire assez confidentiel à l'échelle de l'alimentation générale des Français, et que les choses ont un peu de mal à bouger. Mais quand même, il y a des raisons d'espérer. Quand tu prends la consommation de viande des Français, tu te rends compte qu'elle diminue d'année en année. Moi, je suis pas pour qu'on mange à tout prix moins de viande. Je suis pour qu'on en mange moins, mais qu'on mange de la meilleure. Et qu'on favorise justement, je suis pas pour la disparition de tous les élevages bovins. En plus, je pense que ce serait un crime écologique. Rappelons que les élevages, ce sont au départ la propriété des paysans, et l'étymologie de paysan, c'est celui qui fabrique du paysage. Il fabrique pas du paysage tout seul en plantant des haies. Il fabrique du paysage par un élevage précisément vertueux. Et je peux te citer des tonnes de paysans qui font très bien leur boulot et dont l'impact carbone ou dont l'impact carbone de leur élevage n'est pas du tout condamnable et n'a rien à voir avec... Parce que quand on parle aussi de l'élevage bovin et de son impact carbone, on prend comme référence surtout les feedlots américains où effectivement là, avec les tourteaux de soja qui sont issus de la déforestation en Amérique latine, il y a effectivement d'énormes... des problèmes scandaleux. Jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas jeter toutes les protéines animales, c'est effectivement retrouver un peu de raison et faire de la protéine animale un aliment exceptionnel.
Tu prends le bon exemple de l'élevage bovin qui est relativement vertueux en France, en effet, même si souvent le bœuf est pointé du doigt pour son impact carbone, mais en France on est aussi les chefs de l'élevage intensif, par exemple de cochons.
Je suis bien d'accord. Non, mais attends, tu prêches évidemment à un convaincu et je suis tout à fait d'accord. Ça s'est d'ailleurs passé beaucoup en Bretagne. On a longtemps ostracisé la Bretagne avec le scandale de l'algue verte, etc. Alors que paradoxalement, c'est un peu la terre de tous les extrêmes, la Bretagne, parce que par ailleurs, c'est un formidable terreau où naissent beaucoup d'initiatives super fécondes, des projets paysans passionnants, avec le sarrasin qui reprend du poil de la bête, et je pourrais te citer quantité d'exemples, et c'est pour ça que je vais d'ailleurs régulièrement en Bretagne. Mais il est vrai qu'à un moment donné, il y a eu cette dérive productiviste de cet élevage porcin intensif, avec à la clé pollution de la mer et des sols, irrespect du bien-être animal, et j'en passe, quoi. Et c'est vrai que je préfère regarder du côté de ce qui se fait de bien. J'ai arrêté de dénoncer, en fait, parce que je pense que la meilleure façon, en fait, de retrouver le droit chemin, et si je peux apporter une toute petite pierre sur ce chemin à ma modeste mesure, c'est plutôt essayer de se tourner vers les initiatives exemplaires. Voilà. Par exemple, je suis allé dans le Perche il y a peu de temps et j'ai rencontré un formidable éleveur porcin qui remet au goût du jour, s'appelle les cochons sont dans le pré, c'est-à-dire des cochons qu'utilise Emeline Aubry, cette très bonne artisane du pâté croûte qui est arrivée troisième au championnat du monde du pâté croûte. Et ce cet éleveur porcin, il fait des porcs de Bayeux avec une croissance lente, avec des porcs qui sont très clairement heureux, issus d'une race ancienne, qui ont des pâtures très confortables et très larges. Voilà, c'est un peu le modèle auquel il faut aspirer. Et en plus, c'est un modèle qui peut nourrir le plus de monde possible parce qu'on se rend compte que c'est une nourriture qui coûte certes un tout petit peu plus cher, mais qui coûte tellement moins cher en termes de coûts sur la sécurité sociale en réalité. Parce que manger ces porcs-là, on sait que c'est du bon gras et on sait que on est un peu plus à l'abri de tous les problèmes, de toutes les maladies de civilisation qui flottent au-dessus de nos têtes, quoi.
Pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à écouter le débat passionnant qu'on a eu entre Brigitte Gauthier, fondatrice de L214, et Émilie Janin, qui avait créé l'éleveuse et l'abattage mobile qui malheureusement a fait faillite, mais qui est passionnant. Est-ce qu'on peut être journaliste gastronomique et vegan ou végétarien ?
Oui. Non, mais aucun problème. Puis moi, je vais vous dire, elle me passionne la cuisine vegan. Et je le dis pas uniquement pour brosser ceux qui nous écoutent dans le sens du poil. Parfois, je leur envoie un petit taquet parce que je trouve que certains arguments utilisés sont un petit peu des raccourcis. Mais toutefois, la cuisine végétale me passionne. D'abord, moi, je me suis beaucoup intéressé, je continue du reste, à m'intéresser à la cuisine méditerranéenne. Mais bon sang, la cuisine méditerranéenne, un de ses piliers majeurs, c'est le végétal. C'est le succès de la diète méditerranéenne et du régime crétois que j'ai exploré à l'occasion d'un séjour là-bas assez prolongé, qui fait qu'effectivement, on se rend compte que dans ces régimes-là, il y a très peu de protéines animales. Et quand on mange de la viande, c'est de préférence de la viande blanche. Et on la mange de manière assez exceptionnelle, de manière assez festive. Pour le reste, c'est beaucoup de ressources sauvages, etc. quoi. Tout ça pour dire que la cuisine végétale, elle me passionne aujourd'hui. Et je préfère parler de cuisine végétale que de cuisine végane, parce que végane, il y a une dimension militante, revendiquée par ceux qui sont véganes, qui fait un peu, alors on va pas employer les gros mots de secte et compagnie, pitié quoi, mais qui fait un peu communautariste. La cuisine végétale, je la trouve belle, parce que d'abord, la cuisine végétale, ça montre que les véganes n'ont pas forcément tout inventé, qu'il y a dans les civilisations, même à l'occasion par exemple de diètes religieuses, pour des régions religieuses, etc., beaucoup de raisons de ne manger que des légumes et pas de protéines animales, donc en fait, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse que culturellement. Et la cuisine végétale ou végane m'intéresse aujourd'hui dans sa dimension créative. Elle ne m'intéresse pas trop quand elle cherche à singer des totems carnivores.
Ouais.
C'est-à-dire
le faux burger.
Le faux burger, la viande artificielle avec 17 additifs, ouais, sans qu'on se pose la question de son impact en amont. Ou vous voyez, vous avez en ce moment des pubs dans le métro sur le faux jambon, le faux gras, c'est même pas bio, on sait pas d'où ça vient. Bon, là, quand on commence à nous faire passer des vessies pour des lanternes et que on applique une cuisine un peu, comment dire, on développe une cuisine mimétique par rapport au régime carnivore, bof. En revanche, la cuisine végane ou végétale devient vraiment passionnante lorsqu'elle devient un champ d'exploration culinaire. C'est-à-dire que moi, lorsque, par exemple, Angèle Ferromag, qui a été l'une des premières à me sensibiliser à la cuisine végétale et qu'elle m'a fait déguster des choses avec des textures totalement inédites, à base de tofu ou autre, et surtout des émotions gustatives à la clé, quoi, en bouche, je me dis, mais waouh, c'est passionnant. Et moi-même, c'est vraiment une discipline qui me passionne. Et puis moi-même, je me force aussi, très souvent, je me contrains à cuisiner végétal pour essayer de faire le meilleur possible avec uniquement des ingrédients végétaux. C'est un défi que je trouve très excitant.
Tu l'as dit, le secteur de la restauration, il a évolué sur les questions écologiques. Et en effet, nous, on le voit avec Écotable. Comment faire pour aller plus vite ? Et est-ce que c'est aux restaurateurs de prendre à cœur cette question-là ?
En partie, oui. Je pense que les restaurateurs, ils ont une responsabilité, et cette responsabilité, elle est d'autant plus grande que il n'y a jamais eu autant d'opportunités médiatiques pour les exprimer. Je ne dis pas que tout restaurateur, où qu'il soit en France, peut librement s'exprimer, prendre la parole, mais par les réseaux sociaux, par le micro qu'on leur tend, par tout ce qui existe en termes de support vidéo, d'émissions, etc., il est désormais beaucoup plus aisé qu'avant de délivrer des messages. Donc il faut que notamment les grands chefs qui souvent accaparent la lumière médiatique doivent s'engager davantage. Alors il y en a, hein. Attention, quand vous prenez Olivier Rollinger, j'ai fait encore une émission récemment avec lui, voilà un homme, alors il est certes un peu moins au fourneau puisque c'est Hugo qui l'a remplacé à Cancale, mais toutefois il porte la bonne parole, il fait réfléchir le consommateur un peu partout où il passe, il s'engage, il prend des initiatives et il prend de son temps aussi, et des chefs comme ça, alors il y en a quelques-uns, il y en a peut-être pas assez, mais en tout cas oui, pour répondre à ta question, les chefs ont une responsabilité. Alors après, les chefs ils décident aussi en fonction de la volonté de leurs clients. Et le consommateur doit devenir plus que jamais un consommateur, y compris quand il est devant la carte d'un restaurant, dans un bistrot, une pizzeria ou n'importe quel lieu de restauration hors domicile. Évidemment que si vous voulez le...
Mais quel est le rôle du politique dans tout ça? Est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à accompagner ces restaurateurs, à les aider dans cette transition?
Il n'y a très clairement pas assez d'efforts qui sont faits de ce côté-là. Si vous voulez, on est aujourd'hui dans un contexte compliqué pour la restauration, avec globalement un wagon de mauvaises nouvelles qui leur tombe sur la figure, quoi. Le contexte géopolitique qui fait que ça devient beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'exercer son métier, parce qu'il y a une certaine morosité ambiante qui fait qu'on a peut-être besoin, on a peut-être un peu moins besoin d'aller au restaurant. Vous regardez depuis septembre, le taux de fréquentation des restaurants a baissé de 25 à 30%, c'est considérable. Les restaurateurs, et y compris à Paris, qui a toujours été un peu à l'abri de ça, sont dans une situation très compliquée, avec la hausse des matières premières, avec le prix de l'énergie qui a atteint des tarifs délirants, avec avec encore une fois la morosité ambiante des consommateurs. Donc il est vrai que les pouvoirs publics essayent d'éviter de leur mettre des contraintes supplémentaires et c'est vrai qu'on est dans un contexte où pour le coup les choses sont un peu au ralenti, quoi. Il y a eu évidemment par Olivia Grégoire cette initiative que j'ai plutôt soutenue et qui consiste à revoir totalement le label Fait Maison, qui devenait un peu n'importe quoi et qui était devenu globalement relativement laxiste, quoi. Vous voyez cette espèce de casserole avec un toit de maison que l'on voyait sur certaines cartes et qui voulait dire plus grand chose parce qu'il a été un peu vidé de sa substance par la pratique. Donc remettre les choses en ordre de ce côté-là, c'est déjà à mon avis un premier pas, mais c'est tellement insuffisant. Après évidemment il faut engager tout un métier dans de nouvelles contraintes, là où par ailleurs leur situation financière est plus que jamais compliquée.
Et comment tu vois dans ce cadre l'éducation, les écoles hôtelières, les lycées hôteliers? Aujourd'hui, on est quand même, à part peut-être quelques écoles hôtelières qui se distinguent, on apprend encore les anciennes pratiques dans ces lieux-là.
Oui, je suis entièrement d'accord. Mais je ne peux pas dire le contraire. Moi-même, je vais régulièrement, avec mon petit bâton de pèlerin, parler... dans des écoles hôtelières pour expliquer mon métier, pour essayer de sensibiliser les élèves à une certaine culture gastronomique, car au-delà de la technique, du savoir-faire, de l'art d'émonder une tomate, souvent quand on le fait d'ailleurs et qu'on la prend en plein mois de janvier quand c'est pas la saison de la tomate, l'art de faire un fond brun, etc., c'est certes très important et c'est sans doute ce qui fait aussi une part de l'excellence de notre gastronomie, notamment au niveau international, et ce qui explique d'ailleurs qu'on attire beaucoup de candidats à la gastronomie et à la cuisine en France. Mais très clairement, les structures de formation au métier de la restauration et de la cuisine doivent faire leur aggiornamento, quoi, c'est-à-dire doivent vraiment se réformer et doivent former non pas uniquement des purs techniciens de la spatule, de la mandoline ou du couteau, mais des chefs à part entière avec toute la dimension culturelle, sociale, humaine, qui effectivement est tout un pan de la formation culinaire qui fait défaut aujourd'hui. Donc évidemment, j'arrête pas de le dire. Ça me paraît être du bon sens. Et là, pour le coup, je sens quand même un certain immobilisme en la matière. Ouais.
Oui, moi je trouve que le plastique, c'est un très bon exemple sur ce sujet-là. C'est qu'on leur dit ensuite d'utiliser plus de plastique, mais en fait, ils ont appris à cuisiner avec du film plastique. Donc, c'est extrêmement difficile, par exemple, de s'en passer.
Absolument.
On n'a pas parlé de l'aspect social de la gastronomie, qui est pour moi essentiel. Qu'en est-il des questions sociales comme le bien-être au travail ou la place des femmes? Est-ce que tu as l'impression que ça évolue? Tu en as parlé un petit peu en disant qu'il y a eu des dérives dont on a beaucoup parlé. On a parlé de MeToo de la restauration à un moment. Où ça en est, tout ça, pour toi?
Ça suit son cours, même si encore là, on pourrait penser que ça va pas forcément assez vite. Là aussi, il y a cette question de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est de se dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des femmes chefs qui sont enfin reconnues à leur juste valeur, et de plus en plus, et pas seulement à Paris, un peu partout. Il y a une espèce de, non pas de rébellion, parce qu'il n'y a aucune animosité dans ce mouvement justement, mais il y a une espèce de, formidable élan sociologique de ce côté-là. Alors évidemment, on peut se dire que ça part de très loin et que là encore, il y a peut-être que un cinquième, si en étant un peu optimiste, du chemin qui est parcouru. Mais en tout cas, on peut considérer que cet élan est en marche et ne pourra que prendre de l'ampleur à l'avenir, et c'est souhaitable. Le MeToo de la restauration, moi je suis très à l'aise avec le sujet. Il y a une parole qui devait se libérer, elle s'est libérée pour partie, insuffisamment à mon avis, toujours avec les freins sociétaux qui sont en place et qui, pour différentes raisons, dissuade les femmes de parler, surtout quand elles ont été victimes de violences humaines, sociales, voire sexuelles. On est dans un milieu où on entend des choses. Moi, je suis pas juge d'instruction, je suis pas inspecteur de police, j'ai pas les moyens moi-même d'aller vérifier les choses à la source, même si après, il y a des journalistes d'investigation qui prennent à bras le corps ces sujets, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'on entend des choses qui fait dire qu'à un moment donné, on est dans un milieu qui effectivement a très longtemps été machiste, paramilitaire. Et pardon, mais ça ne concerne pas que les femmes d'ailleurs, parce que la question de la violence, c'était aussi une violence qui était imposée par cette nature quasiment militaire de la gastronomie, qui était un truc très hiérarchisé, avec une autorité, des injonctions, des ordres, une certaine violence humaine et sociale qui a effectivement touché des hommes et des femmes. Après, la représentativité des femmes sur la scène gastronomique, il est vrai que elle est en marche, elle est clairement insuffisante aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'on a, nous, journalistes ou observateurs de ce milieu, un vrai rôle à jouer en leur donnant plus que jamais la parole, surtout quand le talent est carrément au rendez-vous, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, on s'est astreint déjà, c'était au départ une contrainte et c'est devenu en fait ensuite une habitude totalement naturelle, un réflexe, à pratiquer une stricte parité dans les gens que l'on invite à notre micro dont on va déguster. À la fois du côté des chroniqueurs et des chroniqueuses, du côté des invités et ES. Et là, on a à cœur vraiment d'être totalement paritaire. Et en fait, on se rend compte qu'on y arrive très facilement. Et on se force pas à trouver ou inviter une femme. Elles sont là, elles existent. C'est simplement que parfois, elles sont passées un petit peu à côté de la lumière. Donc notre rôle de journaliste, c'est précisément de remettre un peu le projecteur sur elles.
Oui, donc le rôle des médias est central sur ce sujet. Est-ce que tu as l'impression que les médias évoluent? Alors, toi, tu nous dis que tu fais attention à ça, mais de façon générale.
Oui, il y a quand même, malgré tout, une évolution, une sensibilité médiatique à ces sujets. Mais encore une fois, on peut se dire que les choses ne vont pas forcément assez vite, mais... J'ai un peu tendance à penser quand même que aujourd'hui, et c'est une bonne chose, dans le milieu de la gastronomie, la peur a changé de camp. Ouais. C'est-à-dire que quand on a des choses à se reprocher, quand on a été chef, qu'on a fait preuve de violence à l'égard de femmes ou pas de femmes, mais même voilà, s'agissant du problème des femmes et des violences qu'elles ont pu subir dans le milieu très clos de la haute cuisine ou de la cuisine même, la peur a changé de camp. Et si cette libération de la parole... censure de fait des chefs qui ont eu des actes répréhensibles, ben c'est tant mieux quoi.
Sur ton métier de critique gastronomique, est-ce que tu prends en compte quand tu juges un plat les questions écologiques? Là, je pense à la saison, mais à la part du végétal, peut-être à l'approvisionnement si tu connais l'approvisionnement du chef.
Oui, la réponse est oui. Avant, quand j'exerçais mon métier, il y a encore une vingtaine d'années, je me contentais de me demander si ce que j'avais dans mon assiette était bon, si l'équilibre des saveurs était là, si la suavité d'un ingrédient était bien compensée par l'acidité d'un autre, si c'était bien assaisonné, bien condimenté, si la cuisson d'un légume était juste, al dente mais pas trop. Voilà, c'était des questions qu'on se posait, c'était des questions très techniques. C'est d'ailleurs les questions que je me pose quand je fais l'émission à Top Chef. Et puis après, on s'est rendu compte, mais ça fait quand même heureusement un moment dans mon métier que j'ai eu cette prise de conscience, c'est de se poser toutes les questions en amont, quoi. Est-ce que ce que je mange d'abord, à titre strictement personnel, est-ce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que c'est bon pour la santé du producteur qu'il y a en amont? Est-ce que c'est bon pour son confort social? Est-ce qu'il est justement rémunéré? Est-ce que c'est bon pour la planète? Est-ce que c'est issu d'une agriculture vivante, etc.? C'est évidemment aujourd'hui des questions qu'on est obligé de se poser, y compris la proportion de végétal et d'animal. Quand on regarde une carte désormais, évidemment que je suis attentif à l'équilibre entre des plats à teneur végétale, des plats à teneur animale, et c'est en fonction de tous ces critères que je décrypte que je me forge un jugement. Mais plus que jamais, je reste éveillé à ces questions parce que c'est juste. Enfin, maintenant, je fais mon métier naturellement en me posant. Évidemment toutes ces questions, et puis si j'ai pas les réponses sur la carte que j'ai en face des yeux, je te prie de croire que je mets un point d'honneur à poser toutes les questions, y compris au chef, à ceux qui me servent, etc.
Mais est-ce que tu vas aller jusqu'à peut-être censurer ou en tout cas ne pas chroniquer, ne pas mettre en avant un plat ou un restaurant parce qu'il y a quelque chose sur ces sujets-là qui va te déplaire?
Je censure pas forcément, mais en tout cas, je tourne la caméra vers la cuisine la plus exemplaire possible. Alors ça veut pas dire que je peux pas me faire de temps en temps, ça m'est arrivé la semaine dernière ou il y a 15 jours, de temps en temps vous allez dans un bistrot et boum, il y a le Chateaubriand de bœuf avec la sauce béarnaise.
C'est quoi ça, le Chateaubriand de bœuf?
C'est le Chateaubriand de bœuf, c'est une pièce de bœuf.
Okay.
Ça peut être un tourne-d'eau ou ça peut être un pavé drumstick de bœuf avec la belle béarnaise faite maison, les grosses frites.
Bien sûr.
Je sais que c'est une hérésie nutritionnelle, par ailleurs je mange assez peu de bœuf, donc ça peut m'arriver de faire ce genre d'écart pour les besoins de mon métier. Mais sincèrement, sans être donneur de leçons, j'essaye d'être le plus juste et le plus intègre dans mes choix à la fois de restaurant en amont, c'est-à-dire que je vais plutôt là où je sais qu'il y a une démarche exemplaire, et puis ensuite à l'intérieur d'une carte, j'essaie de m'orienter vers les plats les plus éthiques.
On en arrive à la conclusion de ce podcast. Je vais te poser des questions que je pose traditionnellement à mes invités. La première, c'est si tu avais une mesure politique qui permettrait d'aller plus loin dans l'alimentation durable, ce serait quoi?
Waouh, une mesure politique... Très clairement, je suis triste de voir que le bio, après avoir connu de très beaux jours, est en recul chez les consommateurs. Effectivement, on peut pas leur jeter la pierre, il y a des contraintes financières, il y a l'inflation qui est passée par là, on se paye certainement moins le luxe de se tourner vers des produits qui ont la réputation d'être plus chers, même si c'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'il faut se battre par rapport à cette idée. Je trouve que pour le coup, on fait pas assez en fait très clairement pour les producteurs qui sont en agriculture biologique. Ils s'en sont pris sur la figure, ils ont plus de mal à trouver des débouchés et je trouve pas que les pouvoirs publics soient tellement au rendez-vous pour les aider. Donc ce serait il faudrait étudier la question pour voir quelles mesures pourraient être prises, mais en tout cas l'idée de ne surtout pas de continuer à encourager un mouvement qui avait pris un très bel essor ces 12 dernières années.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier?
La rencontre. Ça paraît un peu bisounours comme ça, mais je pense que j'arrêterai de faire ce métier quand je serai totalement hors sol, enfermé dans une tour d'ivoire. Évidemment, ça m'intéresse de parler dans un studio, à un micro, avec des gens intègres et enthousiastes face à vous, mais ce qui m'intéresse plus que tout, c'est la rencontre. C'est certainement pour ça d'ailleurs que le podcast que je suis en train de faire pour la première fois pour France Inter, qui va être mis en ligne sur les plateformes à partir du printemps, et qui va s'intéresser justement à des profils de paysans qui pratiquent l'excellence dans le respect du vivant, je ne serai pas entouré d'une bande, je ne serai pas entouré de chroniqueurs, de chroniqueuses, parce que c'est vrai que je suis un peu grégaire, j'ai l'habitude de travailler en équipe, et là je serai seul avec mon micro pour passer beaucoup de temps, au moins 2 jours au minimum, avec une personnalité. Et ça, c'est vrai que ça me tient à cœur, la rencontre en fait, me nourrir de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui me passionne et qui est certainement la raison d'être dans mon métier.
Ce que tu aimes le moins?
En fait, dans toutes les activités que je développe, il y a plein. Ce que j'aime le moins, c'est tout le travail d'organisation qu'on ne voit pas et qui est un peu fastidieux. Alors heureusement, j'ai des équipes qui m'aident à m'organiser, mais ce que j'aime le moins, c'est cette rationalisation de l'emploi du temps. Moi, je suis un peu dans mon monde, en fait. Je suis étourdi. Parfois, je prenais deux rendez-vous à la même heure. Alors maintenant, je suis obligé de, pour être efficace, parce que j'ai pas mal de missions différentes à affronter, de m'organiser, de rationaliser mon planning, etc. Mais ça, toute cette dimension organisationnelle, administrative.
C'est quoi l'avenir pour François-Régis Gaudry?
Ah, c'est quoi l'avenir? Bon, l'avenir, franchement, c'est de continuer à faire mon métier avec autant de passion. J'espère avec, même si je suis pas à l'abri de la défaillance, avec un minimum de rigueur, en essayant d'être juste. De pas être caricatural. Alors ça veut pas dire, attention, encore une fois, je suis pas un chevalier blanc, je me suis planté, j'ai parfois dit des choses excessives, etc. Mais en tout cas, d'essayer de continuer à faire ce métier avec autant de passion et de curiosité.
Est-ce que pour finir, tu pourrais nous donner ta recette phare à nos auditrices et auditeurs?
Et franchement, moi j'adore faire une recette de ma fée. Et vous faites une recette de mafé uniquement en prenant des légumes racines si vous voulez éviter la case volaille. Donc vous prenez des rutabaga, des navets, des topinambours, tous les tubercules que vous avez sous la main en saison. Vous commencez par faire fondre une bonne gousse d'ail et deux gros oignons que vous avez émincés fins dans un peu d'huile neutre, genre huile de tournesol dans une belle cocotte en fonte. Schlac, 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 vous faites bien, vous remuez, etc. Et vous râpez une phalange de gingembre frais. Vous vous rendez compte d'ailleurs qu'il y a une odeur absolument extraordinaire. Et puis ensuite, vous allez mettre 100 grammes d'une bonne sauce tomate avec voilà des conserves de tomates de préférence italienne issues de tomates mûries au soleil et en plein champ. Et là, vous allez laisser accrocher un peu cette sauce tomate au fond de la casserole. Et quand c'est accroché, vous allez y mettre alors soit vos cuisses de poulet ou soit vos légumes. Et là, vous allez recouvrir d'un litre de bouillon. Alors, ça peut être un bouillon végétal ou un bouillon de volaille. Et puis, vous allez y ajouter trois belles cuillères à soupe de pâte d'arachide biologique, totalement naturelle, sans sel ajouté, sans additifs, sans sucre évidemment aussi. Et vous allez laisser mijoter pendant à peu près une heure et demie. Vous pouvez rajouter évidemment un petit peu de sel. Et puis, vous n'oubliez pas de mettre un petit piment oiseau. Là, ça va chauffer un peu le palais. Et au bout d'une heure, une heure et demie, vous vous retrouvez avec un fabuleux ragoût d'origine africaine avec une sauce ronde particulièrement addictive et la petite trame chaude du piment.
Merveilleux, j'ai envie de faire ça dès ce soir. Peut-être juste une dernière question, ton livre phare que tu conseillerais à tous nos auditeurs et auditrices.
Sincèrement, je viens de finir une bande dessinée que j'ai beaucoup appréciée chez Futuropolis qui s'appelle Circuit court, l'histoire de la première AMAP qui a été créée du côté du Var, par Daniel et Denise Vuillon. C'est la ferme des Olivades. Et ils ont été les premiers à monter la première AMAP, figurez-vous, dans les années 2000. Et c'est une très belle bande dessinée racontée par un journaliste engagé qui s'appelle Tristan Thiel. Et sincèrement, Circuit court chez Futuropolis, ça vous raconte finalement la prospérité de ce très beau de ce nouveau système en fait de production et de distribution agricole qui est l'AMAP, le premier circuit court utilisé en France.
On mettra évidemment toutes les références sur notre site. Merci beaucoup François-Régis.
Merci beaucoup Fanny.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt!
Écotable. Écotable.